Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. La radio dispose également d'une application Cause Commune pour téléphone mobile. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc la radio dispose d'un webchat, utilisez votre navigateur web préféré et rendez-vous sur le site de la radio causecommune.fm, cliquez sur chat et retrouvez-nous ainsi sur le salon dédié à l'émission. Nous sommes mardi 15 octobre 2019, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Houchet, délégué général de l'April. Le site web de l'association, april.org, et vous y trouvez d'ores et déjà, ainsi que le site web de la radio, une page consacrée à l'émission avec les liens et les références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission. Et également les moyens de nous contacter pour nous faire des retours, pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Si vous souhaitez réagir, poser une question, ben vous pouvez pendant ce direct. N'hésitez pas à vous connecter donc sur le salon web de la radio, causecommune.fm, ou à nous appeler au 09 50 39 67 59. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors maintenant, le programme de l'émission du jour. Nous allons commencer par quelques secondes, par la chronique « Le Libre fait sa com » de ma collègue Isabella Vanni, coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April, sur les actions en cours du groupe de travail « Sensibilisation de l'April ». D'ici 10-15 minutes, nous aborderons notre sujet principal qui portera sur le collectif Regard Citoyen, collectif qui propose un accès simplifié au fonctionnement de nos institutions démocratiques à partir des informations publiques. Et en fin d'émission, nous aurons la chronique de Xavier Bern, journaliste à Next Impact, sur les 3 ans de la loi pour une république numérique. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, Étienne Gonu. Bonjour Étienne.
Salut Fred.
Salut Étienne. Donc Étienne qui est aussi chargé de mission Affaires publiques à l'April. Alors, pour commencer, on va vous proposer le petit quiz, hein, comme à chaque émission. Donc, première question. Lors de l'émission du 8 octobre 2019, nous avons parlé d'un groupe de musique de Stoner qui publie ses titres sous licence Art Libre. Quel est le nom de ce groupe? Deuxième question. Donc, notre sujet principal portera sur le collectif Regard Citoyen, qui est notamment à l'origine de 2 sites web qui cherchent à mettre en valeur l'activité des parlementaires. Quels sont ces sites? Je vous donnerai les questions, enfin les réponses plutôt, au fur et à mesure, évidemment, de l'émission. Et donc, tout de suite, place au premier sujet. Alors, nous allons commencer par la chronique de ma collègue Isabella Vanni, donc, qui est coordonnatrice vie associative et responsable projet à l'April. Bonjour Isabella.
Bonjour à tout le monde.
Alors, la chronique est intitulée « Le libre fait sa com » et a notamment pour objectif d'informer sur les actions de type sensibilisation menées par l'April, mais c'est aussi l'occasion d'annoncer des événements libristes à venir. Alors, le thème du jour, c'est justement donc les actions en cours du groupe sensibilisation de l'April.
Le thème du jour aujourd'hui, c'est plutôt les tâches de fond qui sont utiles pour nos actions de sensibilisation et aussi pour nos actions de communication en général. Donc, ce sont des tâches qui sont réalisées en dehors d'un projet spécifique, qui se font donc d'une certaine façon en arrière-plan, mais qui ne sont pas pour autant moins importantes pour nos missions de promotion et de défense du logiciel libre. Donc la première tâche qui me vient à l'esprit, dont je voudrais parler, c'est proposer des images sous licence libre, qui est une tâche très utile pour illustrer nos documents de sensibilisation, mais pas que, aussi nos articles, nos communiqués de presse, nos gazous sur Twitter, au poète sur Mastodon, ou également pour réaliser nos présentations, nos diaporamas pour les conférences. Donc on sait à quel point c'est utile d'avoir des images parlantes, c'est-à-dire des images qui arrivent à attirer l'attention, à faciliter la compréhension d'un texte ou d'une intervention, bref, à communiquer. Et il n'est toujours pas très simple de trouver la bonne image, d'autant plus qu'à l'April, nous nous engageons à ne publier que des images sous licence libre. Donc pour rappel, une image sous licence libre, c'est une image dont l'auteur a explicitement autorisé la copie, la modification et l'utilisation commerciale. En gros, publier une image sous licence libre, c'est faire le choix de favoriser au maximum la diffusion de ses créations, de ses œuvres, et de donner aux autres la possibilité de s'en approprier et de les adapter à leurs besoins. Donc je disais que nous avons souvent besoin d'images pour illustrer nos contenus, Et ainsi, nous sollicitons régulièrement les personnes qui suivent les activités de l'April pour qu'elles nous aident à trouver des images. Donc, comment faire pour solliciter ces personnes ? Donc, normalement, nous faisons des appels à contribution sur les listes de discussion de l'April, notamment la liste sensibilisation, qui est la liste de discussion de groupe sensibilisation, et que, je le rappelle, est ouverte à tout le monde, donc membre de l'April ou pas. Et nous faisons aussi des appels à contribution sur notre salon de discussion sur IRC, qui veut dire Internet Relay Chat, c'est une messagerie instantanée. Et ces outils, donc les listes de discussion et le web chat, nous permettent de nous adresser à beaucoup de personnes, des dizaines de personnes d'un seul coup. De cette façon, nous nous donnons encore plus de chances de trouver rapidement une image adaptée. Bien évidemment, l'idéal, ce serait plutôt d'avoir un beau stock d'images prêtes à l'usage ou pouvoir piocher à chaque fois qu'on en a besoin. Mais cela n'est pas très évident à faire parce que créer et gérer ce stock d'images, le mettre à jour, s'assurer qu'il y ait la bonne licence, etc., à elle toute seule, est déjà une tâche de fond. Et en ce moment, dans le groupe sensibilisation, nous réfléchissons justement à la meilleure solution pour stocker et mettre à disposition ces images, car la solution actuelle, un dépôt sur le wiki, n'est pas très pratique à l'usage. Donc, je profite pour parler de Wiki de l'April. Le wiki est un outil de travail collaboratif. Donc, c'est une application qui permet en gros de créer des pages web assez structurées. Donc, c'est un outil qui est relativement simple à utiliser, mais il demande un minimum de compétences car il se base sur une syntaxe spécifique, justement la syntaxe wiki. Et il se trouve qu'ajouter une image dans le dépôt de notre wiki, puis ajouter les liens nécessaires dans la page dédiée sont des opérations un peu fastidieuses qui peuvent prendre un peu de temps et donc qui peuvent donc refroidir les personnes souhaitant contribuer mais qui n'ont pas forcément beaucoup de familiarité avec cet outil. Donc le but, c'est de favoriser au maximum la collaboration. C'est pour ça que nous réfléchissons à une autre solution, plus simple, plus intuitive. Un autre exemple de tâche de fond, donc très utile pour nos actions, c'est la relecture. Donc la relecture de nos documents de sensibilisation, de nos textes de communication institutionnelle, des transcriptions, et en général les pages de notre site april.org et des autres sites dédiés à des projets spécifiques, et de nous signaler donc d'éventuelles erreurs, coquilles, mises à jour à faire. En sachant que quand le texte doit encore être publié, notamment, nous faisons recours aux personnes qui nous suivent, donc comme je vous disais tout à l'heure, sur les listes de discussion, sur la messagerie instantanée. Mais les erreurs, en fait, se cachent aussi et surtout dans les textes qui ont déjà été validés et publiés. Et donc, il y a régulièrement des personnes qui nous écrivent par courriel ou sur la messagerie pour nous signaler une erreur et nous proposer une amélioration. Donc, s'il s'agit d'une erreur sur une page web, normalement, nous pouvons être très réactifs et corriger dans la foulée. S'il s'agit d'une coquille dans un flyer qu'on a déjà publié en 10 000 exemplaires, c'est un peu plus compliqué de faire la correction. La correction arrive un peu plus tard, mais c'est très bien de nous alerter, de signaler ce genre d'erreur. Une autre tâche de fond très utile, c'est la traduction. Donc, notamment à l'April, il y a un groupe de travail, traduction au pluriel, dont l'objectif est justement de traduire dans des différentes langues le site web de l'April et nos textes, notamment les communiqués de presse. Parce qu'il faut savoir que le site de l'April est disponible aussi en version anglaise. Et donc, c'est génial d'avoir un groupe de bénévoles qui peuvent traduire les communiqués des presse, par exemple, en anglais et les mettre à disposition sur cette partie de notre site. La traduction concerne bien évidemment aussi les outils de sensibilisation et je pense notamment à l'Expo Libre, dont nous avons déjà eu l'occasion de parler à plusieurs reprises dans cette émission. Donc, une exposition en 8 panneaux qui explique la philosophie et les enjeux du logiciel libre au grand public. Et ben l'Expo Libre, grâce à nos bénévoles, aujourd'hui est déjà disponible en 4 langues. La dernière, l'italien, doit encore être mise en ligne. Mais voilà, en ligne, vous pouvez déjà trouver français, bien évidemment, anglais et espagnol. Il y a aussi un groupe de travail qui s'occupe de la traduction de la philosophie du projet GNU en français. Donc le projet GNU est un projet informatique qui a pour but de développer le système d'exploitation libre dit GNU. Et à la base de ce projet informatique, il y a aussi une philosophie qui, en même temps, c'est à la base du mouvement du logiciel libre. Et donc, ce groupe de traduction très spécifique traduit les textes concernant la philosophie du projet GNU en français. Il y a une autre tâche qui est très liée à cette émission. Donc, tout à l'heure, on parlait du fait qu'on a toujours besoin d'images sous licence libre pour illustrer nos textes. Eh ben, on a besoin aussi de musique sous licence libre, parce que dans cette émission, les personnes qui nous écoutent régulièrement le savent sans doute, nous transmettons que de morceaux de musique libre, donc sous licence libre. Et donc, on a un pad, je vais vous expliquer ce que c'est, pour pouvoir proposer des morceaux. Et donc, un pad, c'est un autre outil de travail collaboratif. J'ai déjà parlé du wiki. Donc, le wiki, normalement, demande un accès par identifiant. Et après, il y a la syntaxe, comme je vous ai dit. Donc, ça demande un peu plus de compétences. Le pad, par contre, c'est un outil de travail collaboratif extrêmement simple à utiliser. Parce qu'il suffit, en fait, de suivre le lien, d'atterrir sur la bonne page. On peut commencer à taper. Du coup, si vous avez des musiques sous licence libre que vous souhaitez signaler, il n'y a rien de plus simple. Dans les références de l'émission d'aujourd'hui, vous trouverez aussi le lien au pad pour signaler des morceaux que vous voudrez entendre dans notre émission. J'ai une autre tâche de fond que j'aimerais, vu qu'elle a encore un peu de temps, donc une tâche de fond qui est réalisée par un bénévole très actif à l'April, donc j'en profite pour le saluer, pour saluer aussi toutes les actions qu'il fait pour nous, donc c'est Thierry Védel, qui est le jardinier du wiki de l'April. Donc je vous expliquais tout à l'heure qu'est-ce que c'est le wiki. C'est un outil merveilleux qui nous permet de gérer nos projets, mais en même temps, parfois, ça arrive qu'à accéder au wiki, il n'y ait pas des personnes qui ont envie de collaborer, de nous aider sur nos projets, mais qu'il y a des personnes, voire des robots qui accèdent pour spammer, pour créer des pages inutiles, pour rajouter de la pub. Et bah, Thierry, en fait, est le jardinier du wiki. Et donc, c'est une tâche de fond dans ce cas qui peut être exécutée seulement par une personne qui a un accès particulier à des droits particuliers, des permissions particulières, mais qui est hyper important. Donc, merci Thierry. Voilà, avant de conclure cette chronique, j'aimerais vous rappeler que toutes les tâches de fond dont je vous ai parlé, sauf le jardinage du wiki, sont des tâches qui peuvent être faites par toute personne, membre de l'April ou pas. Et donc, si vous souhaitez contribuer à l'une de ces tâches, vous trouverez dans les références de l'émission les liens pour vous inscrire aux différents groupes de travail que j'ai cités ou pour venir nous rendre visite sur le salon IRC de l'April, donc sur le salon de la messagerie instantanée.
Merci Isabella, donc c'est la chronique Libre SACOM, donc évidemment sur le site de l'April, april.org, et sur le site de la radio causecommune.fm, vous retrouverez toutes les références qu'Isabella a citées, et n'hésitez pas évidemment à nous rejoindre sur le groupe sensibilisation pour d'autres actions de l'April, que ce soit la traduction, la transcription, les relectures. Je vous souhaite de passer une belle journée Isabella.
Merci, à vous aussi.
On va passer à une pause musicale. Nous allons écouter Synthwave Vibe par Maidan. Et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune.
Cause commune. Thank you.
venons d'écouter Synthwave Vibe par Maiden, qui est disponible sous l'essence Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org, et sur le site de la radio causecommune.fm. Donc vous écoutez toujours l'émission Libre à vous, donc sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous allons maintenant passer à notre sujet principal. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur le collectif Regards Citoyens. Donc, nous ne sommes pas en direct, le sujet a été enregistré il y a quelques jours pour des questions de disponibilité des deux personnes intervenantes. Donc on va diffuser le sujet et on se retrouve juste après. Nous allons aborder notre sujet principal qui porte sur le collectif Regards Citoyens. Alors nos invités, Benjamin Octabanou, bonjour Benjamin, et David Gailloux, bonjour David.
Bonjour.
Alors d'abord une petite une question de présentation introductive personnelle, votre parcours en quelques mots, donc on va commencer par David Gailloux.
Du coup moi je suis rentré dans le monde un peu libre par la quadrature et assez rapidement je suis revenu vers Regards Citoyens, donc c'est un peu comme ça que je suis venu, je suis rentré il y a 7 ans, quelque chose comme ça. Je regarde Benjamin, mais je sais pas. Sinon, moi, je suis développeur à la base, donc consultant plus généralement. Donc, je fais des missions à droite à gauche sur les questions de développement et notamment liées aux données.
D'accord. Benjamin ?
Moi, je suis ingénieur de recherche. J'ai bossé d'abord dans des labos d'astrophysique, ce que je me sentais un peu un imposteur parce que j'ai jamais été passionné par les étoiles. Et ensuite, maintenant, je bosse à Sciences Po où je bosse au Media Lab, qui est un labo qui essaie d'équiper, d'instrumenter les chercheurs en sciences sociales pour pouvoir bosser avec des données qui viennent du net. Donc, je collecte des données de sites et de réseaux sociaux essentiellement, et je fais des outils qui permettent de les explorer. Et je suis l'un des cofondateurs de l'ASSO.
D'accord, de l'association Regards Citoyens. Avant de rentrer évidemment dans le détail sur ce qu'est Regards Citoyens, quand des gens vous demandent de leur expliquer ce que c'est en une phrase Regards Citoyens, vous expliquez ça comment ?
D'une manière générale, ce que je donne, c'est plutôt l'envie de ce qu'il y a derrière Regards Citoyens. Et donc c'est pour nous, c'est de fabriquer des outils qui vont permettre d'améliorer la démocratie, dans le sens où on ne peut pas faire une démocratie sur la base du vote sans avoir des citoyens qui soient correctement informés. Et pour les informer correctement, on va essayer de développer un certain nombre d'outils pour qu'ils puissent réellement savoir qu'est-ce qui est fait par leurs représentants et à partir de là pouvoir faire une décision éclairée sur leur choix.
Et du coup, moi, j'essaie de placer surtout le mot transparence. On essaie un peu de promouvoir la transparence de la vie publique sous différents aspects et pas que par le plaidoyer, mais aussi par la pratique, en essayant de faire des outils qui permettent aux gens d'avoir accès à l'information sur les élus, sur la société, sur tout ça.
D'accord. Alors Benjamin, tu as dit tout à l'heure que tu étais l'un des cofondateurs de Regards Citoyens. Est-ce que tu peux nous raconter la naissance de Regards Citoyens et pourquoi ça s'est créé ?
Ouais, je vais essayer de faire court. Historiquement, c'est avec un ancien président de l'April, Tanguy Morlier, où on avait suivi un projet de loi, notamment pas Hadopi, mais la loi avant Hadopi encore, pour ceux qui se rappellent, les DRM.
La loi sur le droit d'auteur qui précédait Hadopi, donc dans les années 2005-2006.
Ouais, c'est ça, 2005-2006, où on s'était passionné pour les débats parlementaires, en fait, en essayant de militer sur ce texte. Puis c'est revenu sur Hadopi. Avec Tanguy, à l'époque, on a sorti un site un peu potache qui se moquait de députés dits Godillot.
C'est quoi un député Godillot ?
C'est un député qui vient, qui ne participe pas aux travaux, mais qui vote. Et qui vote en suivant le
comme
sens...
Comme la majorité de son groupe.
C'est ça. Et ce qui fait que du coup, ça fausse un peu les débats, parce que notamment sur la loi DADVSI de l'époque...
DADVSI, ouais. Ça veut dire droit d'auteur et droit voisin dans la société de l'information.
Tout à fait. Comme pour Hadopi, on était sur des situations où il y a un peu cette idéal... Enfin, qui nous a donné une vision idéalisée du Parlement, où... des députés de la majorité comme de l'opposition peuvent défendre une même ligne qui peut être opposée à celle du gouvernement et peuvent mettre en échec le gouvernement. On s'est arrivé sur Hadopi avec le fameux coup du rideau où les députés sont sortis dernière minute pour voter et ont renversé le résultat du vote. Et à l'époque de la loi donc droit d'auteur, droit voisin, il y avait Christine Boutin qui s'était retrouvée à être d'accord avec Patrick Bloch. Vous voyez le rapporteur du PACS et en face l'égérie anti-PACS. Donc, ils s'étaient mis d'accord d'accord pour mettre, faire voter un truc qui faisait tomber tout le texte du gouvernement. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, on voyait beaucoup ça quand on assistait au débat. Et on a essayé du
donc
coup.
Donc vous assistiez au débat depuis directement l'Assemblée et le Sénat ?
Oui, tout à fait. On allait, on allait dans les tribunes de l'Assemblée. C'était sur la loi Hadopi notamment. C'était assez drôle parce qu'il y avait par certains soirs, il y avait plus de monde dans les tribunes que dans l'hémicycle. Et tu sentais un peu que les députés se retournaient, regardaient et voilà, qu'est-ce qui se passe ? Et donc, ouais, on était beaucoup à suivre les débats à l'époque. Et on est un certain nombre à s'être passionnés pour ça à cette époque. Ce qu'on a pu revoir depuis que Regards Citoyens est né, on a vu ça sur la loi Mariage pour tous, où en fait, il y a beaucoup de gens qui se sont opposés ou qui étaient d'accord, mais globalement, ça a créé plein de gens qui se sont intéressés au Parlement. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que le hashtag sur Twitter Direct AN, qui veut dire Direct Assemblée Nationale, qui est pour suivre du coup les débats, s'est vachement développé. Et enfin, il y a vraiment du coup le fait de suivre les débats permet de comprendre comment ça marche. Et donc, on a pris ce goût pour les débats parlementaires. On a fait ce site potage qui se moquait de député Godillot qui, à nos yeux, pourrissait pas mal le débat. Et après, on nous a dit, faut faire un truc un peu plus sérieux, faire un truc bien et tout. Et pour faire ça, on collectait des données sur les députés pour s'assurer qu'on pointait pas des députés qui étaient en fait des gros bosseurs. Et donc, l'idée de nosdéputés.fr, c'était d'essayer de décliner ça à plus largement pour tout le monde, permettre d'avoir une idée de les députés, qu'est-ce qu'ils font concrètement et comment on peut les contacter et ce genre de choses. Donc c'est comme ça qu'est né Regards Citoyens initialement, c'est en lançant le site nosdéputés.fr, donc sorti pour la rentrée parlementaire du 14 septembre 2009, donc il y a maintenant un peu plus de 10 ans. Et donc voilà, c'est comme ça que Regards Citoyens est né, et puis petit à petit, par la force des choses, en fait, on s'est retrouvé à... Donc, de toute façon, on s'est aperçu que pour créer nosdéputés.fr, on passait 80% du temps à créer des outils qui extrayaient les données des sites officiels de l'Assemblée et du journal officiel. Et donc, en fait, ça nous paraissait naturel, en venant un peu du monde libre, de non seulement mettre à disposition le code, mais de mettre également à disposition les données qu'on générait comme ça. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à promouvoir petit à petit l'open data en France. On était parmi les premiers à défendre, le terme n'existait pas encore vraiment en France à l'époque, l'idée de que les données du secteur public ont vocation à être publiques et à être remises à disposition des gens pour qu'on puisse les manipuler et les traiter. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est mis à faire aussi de la promotion de l'open data. Et puis, enfin, c'est vraiment de proche en proche. On a fait après de la promotion de la transparence de la vie politique.
Bon, on va détailler tout ça dans le cours de l'échange, effectivement. Donc sur la naissance, c'est effectivement en suivant, comme tu le dis, les débats parlementaires autour des premières lois, on va dire, autour du droit d'auteur en France, que ce soit la loi droit d'auteur en tant que telle 2005-2006, et puis la loi Hadopi, 2009. Et avec ce site nosdéputés.fr sur lequel on va revenir. Donc c'est là, à ce moment-là, vous avez créé une association. Donc vous étiez combien au début? 2, 3?
4, et on était une association de fait.
De fait.
On n'avait pas déclaré. On s'appelait le collectif Regards Citoyens. Et on s'est transformé en association officiellement, je crois, 2 ans plus tard, quelque chose comme ça.
D'accord. Et donc, nosdéputés.fr, c'est le site, on va dire, qui vous a fait sans doute connaître. Là, on va passer peut-être un peu en revue, justement, dans le cours de l'échange, les différents projets, les différentes actions de Regards Citoyens. On va commencer par le suivi parlementaire, ce que tu as évoqué à travers les sites, notamment nosdéputés.fr, nos sénateurs, la fabrique de la loi. Donc, David, quel est l'objectif de ces sites, de ce suivi parlementaire ?
L'objectif de ces sites, pour nous, alors, on a eu plusieurs et ils ont un petit peu évolué dans le temps. La première idée du site nosdéputés.fr, c'était de pouvoir aller voir en quelques minutes, en 5 minutes, qu'est-ce que son député à soi, il a pu faire à l'Assemblée nationale. Alors, son député à soi, c'est l'approche un peu naïve qu'on peut avoir au début quand on va regarder l'Assemblée nationale, parce que comme on a voté pour un député dans sa circonscription, on a un certain sens d'appartenance à ce député-là. Il s'avère que dans la vie politique plus générale, ils sont représentants de la nation et qu'assez souvent, c'est plus intéressant d'aller parler aux députés spécialistes du sujet sur lequel on veut influencer à côté. Mais en tout cas, de pouvoir aller le voir et d'avoir un aperçu assez rapide sur quel a été son travail au sein de l'Assemblée, sous quelle forme ça a été fait. Donc à la fois de pouvoir savoir quels sont ses sujets de prédilection, parce qu'en fait, chaque député va en général avoir un certain nombre de sujets de prédilection, de par la commission permanente auquel il a signé, et par ses affinités personnelles dans lesquelles il va pouvoir avancer. Donc c'est pour ça notamment qu'assez régulièrement dans l'Assemblée nationale, on va pouvoir voir des projets de loi qui sont votés à 50, 70 députés. Ce qui s'explique très bien, en fait, c'est que du coup, dans ces moments-là, c'est essentiellement des députés qui ont travaillé sur le sujet, qui ont essayé de proposer, qui sont vraiment rentrés dans le sujet, plus un certain nombre de députés qui vont juste être là pour assurer la majorité. Mais ils vont tous avoir une certaine spécialité, donc. Il y a un nuage de mots qui apparaît sur la page du député qui nous permet d'avoir cette information-là. Il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont en tout petit sur les pages des députés et qui font beaucoup de bruit sur Twitter, qui correspondent du coup à combien d'amendements il a déposés, combien de fois il a pris la parole, en faisant pour nous du coup une différence entre des interventions longues et puis des interventions courtes, les interventions courtes étant les moments où ils vont essentiellement faire des injectives. Alors c'est les moments qu'on va plus facilement voir dans quelques éléments de télévision satirique qui représentent une partie du travail, mais qui ne sont pas forcément, enfin qu'on ne considérait pas forcément comme une prise de parole appuyée, argumentée. Ça nous semblait important de faire la différence. Le nombre de questions écrites posées, le nombre de questions orales posées, tous les éléments un peu quantifiables qu'on pouvait avoir, et puis un élément qui nous semblait important, qu'on n'arrivait pas forcément à bien prendre, mais qui sont le nombre de semaines d'activité qu'on a été capable de détecter pour un député. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas forcément travaillé, c'est juste qu'on ne l'a pas vu en présence en commission. Les présences en commission, elles sont notées. On ne l'a pas vu prendre la parole en hémicycle. Et du coup, pour nous, on n'a pas de preuve qu'il était effectivement présent dans les différents travaux, donc on n'a pas pu le prendre en compte. Donc ça, c'était la première partie, avec notamment à l'époque, on rentrait son code postal et on arrivait à trouver son député, ce qui était quelque chose qui n'existait pas à l'époque sur le site de l'Assemblée nationale. Depuis,
ils ont pris
l'idée d'essayer de faire évoluer, et ce qui est très très bien. Si le site de l'Assemblée nationale peut permettre de mieux guider les citoyens vers le travail des parlementaires, c'est une bonne chose. Suite à ça, en fait, ce qui se passe dans nosdéputés.fr, ou dans sénateurs, hein, les deux sont très proches, sont liés, juste qui concernent les sénateurs, on va essayer de récupérer toutes les sources d'informations qui existent, toutes les sources d'informations publiques, et qui vont être assez, avec un certain sens d'objectivité. Donc, si les députés nous donnent des informations, on ne peut pas les prendre en compte, parce que ça fausserait un peu l'objectivité globale. Mais comme on arrive à tout avoir, on a aussi un gros moteur de recherche. Notamment, on a un moteur de recherche qui va nous permettre de retrouver toutes les fois où un sujet précis a été traité. Donc, par exemple, on peut faire une recherche sur logiciel libre et trouver tous les moments où le logiciel libre il a été évoqué dans l'Assemblée, dans les exposés des motifs des amendements ou dans les différents projets de loi. Et donc, ce moteur de recherche, c'est un usage un peu plus avancé. C'est pour le coup, les personnes qui vont l'utiliser, ça va être soit des différents lobbyistes d'associations, soit des journalistes qui veulent pouvoir faire un suivi assez précis sur ces choses-là. Et comme on indexe vraiment tout, ils sont capables de le faire. On est capable de chercher précisément sur des amendements, on est capable de chercher.
Et on peut être informé en plus via les alertes. Par exemple, moi je suis inscrit via des alertes, donc par mail on reçoit, si on met les mots-clés, bah, dès que le mot-clé est utilisé dans un nouveau texte et que vous l'avez référencé, on reçoit un courriel qui nous prévient. Et ça c'est très utile effectivement.
Oui, c'est. Enfin, excusez-moi. Donc oui, c'est assez utile pour tout le travail d'activiste, tout le travail de journaliste, de gens qui veulent pouvoir être au courant, parce que des fois, alors là, on rentre dans le concept même de l'écriture de la loi au sein du Parlement, mais des fois sur un texte qui ressemble, enfin qui a pas l'air d'être un sujet sur lequel qui nous touche, il peut y avoir des amendements qui vont passer et qui vont modifier des choses là-dessus, et ça peut avoir un impact assez fort au final. Pour les questions qui vont nous intéresser, alors, typiquement sur les questions de transparence pour nous, ou des questions de logiciel libre pour l'April, des fois quand on va dans des amendements, il peut se passer des choses. Donc il faut réussir, dans le travail d'activiste, il faut réussir à être mis au courant quand un amendement est déposé, va parler de nos sujets, pour être capable de pouvoir intervenir avant qu'il soit voté, et pouvoir aller voir nos différents parlementaires alliés, en tout cas qu'on sait sensibiliser sur le sujet, pour leur dire « Attention, hein, l'amendement numéro 77, là, celui-là, faut pas le laisser passer, ça va pas du tout. » Enfin, je sais pas si t'as des choses à ajouter, Benjamin.
Non, complètement. Enfin, c'est exactement ça. Pour moi, il y a nos députés ou nos sénateurs, qui est effectivement le petit frère, qui fait à peu près la même chose. C'est vraiment ces deux visions. C'est soit le citoyen qui veut juste savoir en deux minutes qu'est-ce que fait son député, il va regarder, et ou soit effectivement l'usage avancé du journaliste qui veut suivre, de l'activiste qui veut suivre, et du coup c'est le but du dernier projet qui est la fabrique de la loi sur la question, qui est d'aller regarder en détail le déroulement du parlementaire autour d'un texte de loi.
Alors quelle est la différence justement avec nos députés
et
nos sénateurs?
Comme David le disait, à l'Assemblée il y a beaucoup de choses qui sont les invectives, etc., et même ce qui est le plus visible du grand public, c'est les questions au gouvernement, qui est le truc le moins représentatif, voilà, en fait, de l'activité de travail de fond des députés. C'est le bordel, c'est l'école. Enfin, ils se crient dessus, ils se lèvent, ils s'engueulent.
Des fois, les élèves à l'école se tiennent mieux que
c'est vrai.
Parlement.
C'est surtout celui qui a le moins d'impact impact réel pour les citoyens. Pour
voilà,
vie,
ça c'est important de le préciser, parce que
démocratique
c'est ce qui apparaît le plus quelque part souvent dans les médias, alors que c'est ce qui a le moins d'impact dans le travail.
C'est ça, c'est la, en fait c'est la foire d'empoigne des politiques, voilà. Alors que le vrai travail du parlementaire c'est d'écrire la loi, et écrire la loi ça consiste à, concrètement, il y a le gouvernement ou des parlementaires qui proposent un texte, et ensuite ce texte il va passer par plein d'étapes. Il va y avoir une discussion en commission, une discussion dans l'hémicycle, il va faire la même chose ensuite après l'Assemblée.
Quand tu parles de commission, qu'à l'Assemblée et au Sénat, il y a des commissions spécialisées en fonction des domaines, et que tel texte est d'abord étudié dans une commission, souvent ce qu'on appelle saisie au fond, qui est spécialisée de ce domaine-là, avant ensuite d'être étudié par l'hémicycle. Voilà, donc c'est toute une procédure.
C'est ça, et du coup ils vont discuter, donc le rôle après vraiment du parlementaire pour la discussion de la loi, c'est de voter sur des amendements qui sont des propositions en fait de modification du texte initial. Donc pour chaque article, le texte il peut avoir, des fois il y a les textes à un article, des fois il y a les textes à 200 articles, pour les pires. Et pour chaque article, c'est du texte en fait, et on va proposer aux députés de faire des amendements qui vont donc... proposer de modifier un bout du texte. Ces amendements vont être votés par l'ensemble des députés, donc soit de la commission, soit de l'hémicycle. Et on va faire ça plusieurs fois. D'abord, donc généralement, ça commence par l'Assemblée, mais ça peut commencer aussi par le Sénat. Mais donc, on va faire commission, hémicycle, à l'Assemblée et au Sénat. Et le système parlementaire, il faut que les deux tombent d'accord. Il faut que l'Assemblée et le Sénat, ils arrivent à un texte qui soit près le même. Alors, il y a des cas limites dans lesquels, s'ils sont vraiment pas d'accord, au final, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot. Mais du coup, il y a des allers-retours comme ça entre les deux chambres, à plusieurs reprises, potentiellement. Et c'est assez compliqué, en fait, à suivre. Et pour les gens, arriver à comprendre à quel moment le texte, c'est quoi. Enfin, souvent, on lit dans la presse, les députés ont voté ça. En fait, ils ont voté en commission, on est en première lecture. Alors, en fait,
on n'a pas du tout de loi qui est actée
à ce moment-là. Ouais.
Typiquement, en ce moment, sur la PMA. Oui. En ce moment, on a eu des articles qui disaient « ça y est, les députés ont voté la PMA ». On est très très loin encore d'avoir effectivement la PMA applicable pour les citoyens dans la vie de tous les jours.
Alors je précise qu'un point de vue temporel, nous enregistrons l'émission début octobre. Bon, elle sera sans doute diffusée en octobre en novembre, mais je le précise juste, voilà.
Et donc voilà, l'idée de la fabrique de la loi, c'est de proposer un autre outil que nos députés et nos sénateurs, mais qui permettent donc d'aller regarder dans le détail pour un texte, qu'est-ce qui s'est passé, quand, comment et à quel moment, et qui est responsable. Donc c'est un outil dans lequel on va trouver chacun des textes qui ont été discutés ces 10 dernières années. Et alors, pour l'instant, c'est encore expérimental et ça touche pas 100% des textes. Mais normalement, les textes arrivent en direct. Donc, quand un texte est en cours de discussion, il est intégré dans la fabrique de la loi. Et donc, pour ce texte, on va voir le cheminement de chaque étape. Donc, et pour chaque étape, on va avoir le texte de la loi et l'évolution. Donc, on va avoir des visualisations qui vont permettre de voir pour chaque article, par exemple, comment est-ce qu'ils ont été modifiés, est-ce qu'ils ont grossi, est-ce qu'ils ont changé. Et on va pouvoir visualiser ça, puis aller regarder le détail en cliquant et voir un peu comme pour les développeurs informatiques, on utilise souvent un truc qui s'appelle Git, qui permet de
quoi Git?
Git, c'est un outil de gestion de version qui va permettre du coup de voir comment est-ce que le programme qu'on écrit, quand on le modifie, il change. Donc, vous pouvez voir ça facilement sur Wikipédia. Où vous pouvez voir l'historique d'une page et on peut voir du coup ce qu'on appelle le diff, donc les différences entre la version d'avant et la version d'après. Et ben on propose ça du coup sur les textes de loi pour permettre justement de voir qu'est-ce qui s'est passé à tel moment. Et une fois qu'on voit qu'il y a une différence, on va pouvoir cliquer et aller voir c'était quoi les amendements sur cet article. Ah, c'est cet amendement-là qui a été adopté, il avait été proposé par machin et du coup c'était quoi les discussions. Et on va pouvoir retourner aussi au compte-rendu des débats et arriver comme ça à retracer ce qu'on appelle l'empreinte législative un peu, arriver à voir comment est-ce que le Parlement a transformé le texte, et pourquoi et comment. Ce qui est un truc qui a un peu d'utilité aussi pour les juristes, parce que théoriquement, quand le Conseil constitutionnel ou quand un avocat dans un procès tranche sur un bout de loi, il est censé tenir compte de l'intention du législateur. C'est-à-dire pourquoi est-ce que le législateur a voté ça. Et si, j'ai des exemples récents, mais je crois que récemment, quelqu'un qui a été arrêté sur l'argument de... Ah, je vais pas le retrouver. Il y a une loi qui a été votée sous Sarkozy qui faisait qu'on n'avait pas le droit de filmer les gens qui se battent. C'était le...
Ah oui, je me souviens.
Sur les téléphones portables à l'école, il y avait des batailles, enfin des gens qui volontairement filmaient des gens, le fait de taper d'autres gens. Et du coup, il y a un journaliste ou un citoyen, je sais plus, enfin un manifestant, qui sous l'argument de ce texte s'est retrouvé condamné récemment pour avoir filmé des policiers qui tapaient un manifestant. Et parce que du coup, il a filmé une violence en réunion. Et donc théoriquement, je pense que s'il fait appel, ils vont remonter au texte, et c'est pas l'intention du législateur que ce texte permette de sanctionner ce genre de choses.
Lors de l'appel, ils vont se baser sur les explications lors des échanges de ce texte pour comprendre quelle était cette fameuse intention du législateur.
Bah, j'imagine que ça va être la position qui va être prise par la défense.
Alors, ce qu'il faut savoir sur la loi, c'est qu'en fait, dans la loi, c'est un peu la même chose dans le code, le détail est extrêmement important. C'est-à-dire que si on écrit, on peut faire un grand texte de loi qui dit « Tout le monde doit payer ses impôts ». C'est marqué en gros dans la loi « Tout le monde doit payer ses impôts ». Si un petit malin passe et vient rajouter un amendement qui a fait « virgule, si possible », le texte de loi, ça devient « Tout le monde doit payer ses impôts, si possible ». Ça veut dire qu'ensuite, chacun peut trouver un argument qui peut justifier pour le fait qu'il n'a pas pu payer ses impôts.
Genre une phobie administrative.
Par exemple, des phobies administratives. Mais en fait, assez souvent, les textes de loi, ils ne vont pas se débattre sur les grands thèmes ou sur la grande prise de parole pour savoir si tel ou tel sujet est important, mais ça va se battre dans les détails qu'ils peuvent avoir. Donc assez souvent, des petits groupes de mots, voire même des fois des virgules qui apparaissent, deviennent des sujets assez importants pour savoir, enfin, dans l'interprétation du texte, et pour, notamment quand on peut avoir une approche activiste, de bien comprendre comment est-ce que cette phrase-là, qui pouvait paraître anodine dans un jugement 5 ans après, devient quelque chose d'assez important. Comment est-ce qu'elle est arrivée? Quelle était l'intention? Est-ce que il y avait une volonté assez malsaine d'un lobby caché qui voulait le faire? Ou est-ce que finalement c'était plus dans l'inattention ou dans des constructions syntaxiques étranges qui viennent de plusieurs amendements différents?
Alors, juste préciser les adresses des sites, hein, c'est nosdéputés.fr au pluriel, nossénateurs.fr.
Et vous pouvez mettre les accents, ça marche.
Avec les accents, ça marche aussi. Et la fabrique de la loi, .fr, donc des outils utiles pour les citoyens et citoyennes, et pour les activistes, pour les journalistes. Je précise également que pour les alertes dont on parlait tout à l'heure, il suffit juste de mettre une adresse électronique et on reçoit directement. Il n'y a pas besoin de se créer un compte, contrairement à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est nos députés, nos sénateurs, la fabrique de la loi. Ça fait maintenant donc une dizaine d'années que vous faites ça, que donc vous suivez aussi forcément l'activité parlementaire. Quelle est votre vision aujourd'hui du Parlement, de la démocratie? Est-ce qu'elle a évolué par rapport à 2009, quand vous êtes lancé dans cette aventure?
Au niveau de notre vision du Parlement, en fait, assez paradoxalement, je pense que la plupart des parlementaires sont persuadés qu'on est des anti-parlementaires, donc on fait tout pour participer à leurs critiques, alors qu'en fait, je pense qu'on fait partie des plus grands passionnés de comment fonctionne le Parlement et de la vision de ce que représente le Parlement. Je parle essentiellement pour moi, mais je pense que c'est le cas de la plupart des membres de Regards Citoyens. Le Parlement, c'est en fait l'instance démocratique la plus légitime. C'est celle qui va représenter le plus les différentes opinions. C'est là où on peut avoir effectivement un débat public. Je pense que c'est assez sain qu'on soit capable de pouvoir discuter dans une instance représentative des différentes opinions, notamment différentes, qui peuvent exister. Et que c'est par l'expression de ce débat public, et notamment des différentes oppositions qu'il peut y avoir, qu'on peut arriver à la fois sur un travail de trouver des compromis qui sont beaucoup plus efficaces pour chacun, et qui sont des solutions qui sont beaucoup plus intelligentes finalement trouvées que l'expression donnée initialement, mais également de donner une meilleure acceptation des différentes lois qui peuvent être faites par des citoyens, même quand elles ne sont pas dans le sens qu'on aurait voulu le faire, parce que au moins on a pu voir notre avis défendu, et on a pu voir un débat dans lequel ça s'interprétait. Et même si notre avis n'a pas été imposé. Ou majoritaire, au moins il a été pris en compte. Actuellement, l'usage du Parlement, et pas que sous cette majorité, est pas assez, pour moi, je voudrais un Parlement plus ambitieux, je voudrais un Parlement qui aille plus souvent à la confrontation. Le nombre de fois où le Parlement s'est opposé au gouvernement et sous la Ve République est complètement anecdotique.
Ça arrive généralement sur des détails. C'est-à-dire que dans un texte, on va avoir tout d'un une rébellion sur effectivement une virgule, j'exagère, mais et ce changement va avoir un impact parce que ça va vraiment créer une exception dans la loi qui potentiellement est importante, mais ça va pas changer fondamentalement la ligne politique du gouvernement.
Oui, et ça apparaît pas comme une menace. Le Parlement actuellement, notamment parce qu'il y a toujours une majorité assez forte qui apparaît, est toujours là, un peu sous forme de validation du texte du gouvernement. Alors il fait des modifications à la marge, mais on a assez rarement des rapports de force assez forts qu'on peut voir notamment dans d'autres démocraties.
Et au Parlement européen, par exemple.
Au Parlement européen. En fait, c'est même plutôt exceptionnel. C'est plutôt exceptionnel d'avoir un Parlement qui soit aussi peu dans la lutte de pouvoir avec son gouvernement. Quand on regarde ce qui s'est passé ces dernières semaines au niveau du Brexit entre Boris Johnson et la Chambre des communs, on voit que ça a quand même été fortement à la confrontation. Mais de la même façon, le Congrès aux États-Unis a beaucoup plus de friction. En Allemagne, on est beaucoup plus dans la culture du compromis, avec beaucoup plus de petits partis qui font des alliances pour construire ces choses-là. Et c'est un travail qui est assez peu fait. En tout cas, on l'aperçoit assez rarement au niveau du Parlement. Et il y a un certain nombre de stratégies pour que, en plus, ce débat-là soit plus public. C'est-à-dire que, typiquement, les groupes parlementaires majoritaires vont le plus souvent dire « Non, mais on va discuter des sujets en réunion de groupe pour afficher un front commun. » Ce qui fait qu'au final, tout le débat public, il n'est pas du tout public, puisqu'il est fait dans une salle fermée entre le groupe, et toute volonté de pouvoir effectivement améliorer le texte, parce que les textes de loi qui arrivent devant le bureau de l'Assemblée nationale, ils sont en général écrits assez rapidement par des membres de cabinet ministériel, qui sont souvent des personnes qui vont avoir moins de 30 ans, qui sont sous énormément de pression pour l'écrire. Ils ne sont pas forcément les textes les plus parfaits tels que sortis. Alors que quand on écoute assez régulièrement les prises de parole sur comment est-ce que le Parlement intervient sur la loi, c'est souvent la façon dont c'est dit, c'est que ça va baisser la qualité de la loi, ça rajoute beaucoup de choses, ce qui est assez généralement pas tout à fait vrai. Ça veut plutôt corriger un paquet d'oubli dans ce qui a pu être fait dans les textes du Parlement.
D'accord. On va faire une pause musicale, on va poursuivre peut-être avec l'évolution que vous souhaiteriez voir souhaiter au niveau du travail parlementaire. Donc on va faire une pause musicale, nous allons écouter Hard Country par Tonehouse Woods et on se retrouve juste après. Well, I've been wandering through these hills and I ain't got no more pills and the mean old wind won't blow no luck my way and the made me strong, but it can't contain me long, for I got a mind to make these bastards pay.
Cause commune.
Your wish is to get dead, 'cause the iron on my hip don't tell no lies. Oh, and God can't save you here, he moved back east last year. Yeah, the dust will swallow up your mournful cries. This year is hard country. You don't take these words to heart, you'll find your share of teachers, give you some lessons round these parts. Tell you no amount of right gonna justify your lies. I can see right through you and that glass you pour. We can settle this like men, bring these troubles to an end, and I can learn you to keep your eyes off what ain't yours. This year take these words to heart, you'll find your share of teachers, give you some lessons round these parts. You say the town you're in can't hold you, come on out to Canastota. Yeah, the long arms of the law don't reach us here. Hard country. If you
Nous venons d'écouter Hard Country par Tonehouse Woods, disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Donc nous allons poursuivre notre échange avec le collectif Regard Citoyen et notamment on va poursuivre sur l'évolution souhaitée du travail parlementaire. Benjamin Octabanou, tu souhaitais réagir là-dessus?
Oui, bah en fait, ce qu'a dit David est globalement ce qu'on défend. Et je juste rebondir sur ce que je disais tout à l'heure par rapport au Godillot et sur cette vision idéalisée qu'on a pu développer du Parlement. C'est vrai que en France, malheureusement, c'est triste à dire, mais le Parlement est quand même très aux ordres de l'exécutif. Il fait quand même rarement d'opposition au gouvernement, alors qu'on a vraiment... Le fait de voir ça se passer nous a fait nous dire, bah oui, c'est leur rôle, c'est nos représentants, et par moment, juste par le débat, par le dialogue, on peut arriver à tomber d'accord sur des choses, trouver des consensus, et c'est ça la raison, c'est le débat qui amène un consensus sans que ce soit juste un politique au-dessus qui dit, il faut faire ça, et c'est comme ça, et ce sera pas autrement. Ce qu'on voit en Angleterre avec le Brexit en ce moment, enfin, plus que le Brexit, surtout le fonctionnement du Parlement en ce moment qui est en train de complètement, alors qu'il est sous une majorité de Boris Johnson, mais qui est en train de dire non à tout ce que fait Boris Johnson. Et juste avant, c'était pareil avec Theresa May. C'est juste, ben oui, on est du même bord politique, mais là, concrètement, ce que tu fais, non. Et ça, c'est le rôle du Parlement. Et malheureusement, en France, c'est quand même extrêmement rare de voir ça. Alors que pourtant, il n'y a pas de grand changement à mener au sein du Parlement pour y arriver. C'est une citation que j'aime beaucoup du constitutionnaliste Guy Carcassonne, qui est décédé il y a quelques années, qui est le Parlement manque pas de moyens, il manque de parlementaires pour les exercer. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que, en soi, le problème, c'est que les députés se sentent redevables. Ils ont, et là, on est typiquement sur ça, sur cette législature, tous les nouveaux députés de En Marche n'ont été élus pour, allez, j'exagère sur tous, mais beaucoup n'ont été élus que parce que sur l'affiche, il y avait Emmanuel Macron à côté d'eux.
Et donc, ils se sentent redevables de ce président, donc du Premier ministre et du gouvernement qu'il a nommé.
Et donc ils font ce qu'on leur demande de faire, voilà. Et ils ne vont pas chercher à s'opposer. Je vais pas la citer, mais je parlais récemment avec une députée En Marche comme ça, et qui disait que... non, mais que, oui, je ne suis pas d'accord avec ce que j'ai voté. Ok, alors, mais pourquoi tu le fais alors?
Enfin, malheureusement, c'est pas nouveau, et c'est pas que En Marche, hein, dans le passé,
tout à fait, ouais.
C'est tous les partis. Et j'en profite pour préciser une chose importante, hein, c'est que le collectif Regard Citoyen est un collectif transpartisan. Ça, c'est vraiment important.
C'est dans nos statuts.
C'est dans vos statuts, exactement. Oui. Quoi, donc,
Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que ben, on n'est pas apolitique. Ça veut rien dire d'être apolitique aujourd'hui. Tout ce qu'on fait est politique. Et c'est même particulièrement politique quand on bosse sur le Parlement. Par contre, moi, j'ai des opinions politiques. Moi, je suis plutôt de gauche. Il y en a d'autres qui vont être plutôt écolo. Il y en a d'autres qui vont être plutôt de droite. L'idée, c'est plus que tout ça n'a pas besoin de se battre et qu'on peut peut-être défendre des lignes sur la transparence de la vie politique qui soient pas partisanes, en fait. Et d'ailleurs, du coup, ce que je...
Ah bah, justement, tu cites le mot transparence, donc je souhaiterais enchaîner avec le sujet suivant, notamment sur la transparence de la vie politique et vos actions en faveur de cette transparence, donc à la fois avec les déclarations d'intérêt, le registre des représentants d'intérêt, justement, voilà. Alors, tu peux enchaîner sur ce sujet-là, la transparence.
Ok, alors, du coup, deux choses. On a, au cours de nos quelques années d'existence, beaucoup plaidé pour plus de transparence dans la vie politique. On a un comportement assez opportuniste, dans le sens où on est tous bénévoles aussi, et du coup, on n'a pas énormément de temps à consacrer, en fait, à nos activités.
Alors ça, c'est un point important. Sur l'organisation, on y reviendra après, mais c'est que le collectif est composé que de bénévoles.
Mais ce qui fait que, du coup, on est opportuniste, ce qui n'est pas forcément, ça peut paraître négatif, dit comme ça, mais qui n'est pas forcément négatif, c'est dans le sens que, ça sert à rien de porter un plaidoyer sur la transparence du lobbying quand il n'y a absolument pas moyen de faire bouger les lignes là-dessus à ce moment-là. Donc, ce qu'on va plutôt faire, c'est essayer... on va essayer de porter un discours qui va mettre les sujets à l'agenda, mais ça, c'est pas forcément le cas. Et par contre, des fois, il y a des choses qui se passent. Et du coup, c'est le moment de... Là, tout d'un coup, un sujet rentre sur le devant de la scène, et c'est le moment, du coup, d'essayer de pousser des trucs. Et je pense à un exemple tout bête, c'est l'affaire Cahuzac. L'affaire Cahuzac arrive,
la fraude fiscale.
Et dans la foulée, on comprend tout de suite qu'il va y avoir une grande loi sur la transparence de la vie publique. Dans la semaine, on se réunit et on commence à discuter ça y est, c'est le moment là, qu'est-ce qu'on défend et comment, et c'est ça, être opportuniste pour le plaidoyer, pour le lobbying. On revendique hein, le fait de faire du lobbying, c'est pas un gros mot, c'est juste qu'il y a du lobbying citoyen, il y a du lobbying qui est pas citoyen et qui en plus met des gros sous, et où là c'est plus très
et,
éthique.
Et de façon, mais, sans, le fait sans transparence, en fait caché.
Tous ceux qui veulent que le lobbying ça soit un gros mot, c'est les gens qui veulent pas que les citoyens s'intéressent à la loi, donc c'est en général les lobbyistes qui sont les méchants, pour être très manichéen, mais c'est exactement les personnes qu'on n'a pas envie de laisser écrire la loi.
Alors, Jérôme Cahuzac, la loi qui s'annonce sur la transparence, et là donc, de façon opportuniste, qu'est-ce que vous faites ?
Donc là, par exemple, ce qu'on a défendu, il y avait à l'époque cette idée, bah, il y a trop d'argent caché, il faut que les élus et les ministres, on sache ce qu'ils ont, et donc il y avait ce débat. Nous, on a eu le débat en interne, on n'était pas forcément d'accord sur le fait qu'il faille rendre public absolument les avoirs d'absolument tout le monde, machin, il a 50 000 euros sur son compte en banque, il a une Twingo, et il a un petit vélo, c'est pas forcément ça qui est intéressant, et en plus, ça pose quand même des questions de sécurité pour les élus, parce que quand on sait que machin, il a une réserve de 600 diamants, et ben potentiellement, ça veut dire qu'il va falloir payer des gens pour surveiller sa résidence, parce que ben un jour, il va se faire braquer.
Et, en plus, sa résidence est marquée dans la déclaration.
En plus. Donc du coup, pour toutes ces raisons, nous, sur les questions de déclaration de patrimoine, on n'était pas forcément très moteur. Et ce qu'on défendait plutôt, c'est d'ailleurs qui est pas pour le coup, on n'a pas obtenu ça, mais qui était l'idée que ben plutôt que de publier des déclarations de patrimoine, il faudrait déclarer des déclarations de dévolution de patrimoine. C'est-à-dire que le député, il rentre en début de mandat, il sort en fin de mandat. Là,
la différence entre les deux.
Il y a une autorité qui va contrôler, et ben combien ça a bougé. Et s'il a triplé son patrimoine en 5 ans de mandat, c'est peut-être qu'il y a un truc qui est une anguille sous roche. Donc voilà, ça on ne sait pas trop. Enfin, on a essayé, mais on n'a pas obtenu. Ce qui est passé, c'est totalement ubuesque. C'est qu'il y a des déclarations de patrimoine et qu'elles sont consultables, mais pas divulgables. C'est-à-dire que vous avez le droit d'aller à la préfecture et de dire bonjour, je voudrais consulter la déclaration de patrimoine de un tel. Vous pouvez la regarder, mais vous n'avez pas le droit de faire de photos, vous n'avez pas le droit d'écrire quoi que ce soit. Et même si vous vous en rappelez et qu'ensuite le soir vous l'écrivez sur un bout de papier ou sur Internet, vous pouvez prendre je sais plus combien de peines de prison ou d'amende. Mais c'est sympa. Et donc nous, on s'est plutôt battu sur les déclarations d'intérêt, qui sont en fait le vrai enjeu justement en termes de conflit d'intérêt, de lobbying, de savoir que, et c'est d'ailleurs dans l'affaire Cahuzac un des gros enjeux, c'est que tout cet argent qu'il avait accumulé, il le tenait pas de nulle part, il le tenait du fait que en tant que membre du cabinet de ministre de la Santé, de je ne sais plus son nom, il avait bossé pour Servier, et il avait fait passer en sous-main des trucs. Et c'est comme ça qu'il avait récupéré en partie l'argent en trop. Donc tous ces sujet-là, sur les intérêts que les gens peuvent avoir, et ça consiste en fait à savoir, j'ai des actions dans telle boîte, je suis au conseil d'administration de telle association, c'est ça qui peut potentiellement avoir un impact, et pour le coup, il n'y a vraiment aucune raison de ne pas rendre ça public. Donc ça, on s'est battu pour les déclarations d'intérêt public.
Et... Sur les déclarations d'intérêt public, par exemple, un exemple qui peut montrer les choses, la candidate, à l'heure actuelle encore, pour devenir commissaire européenne française, c'est Sylvie Goulard, et dans ses précédentes déclarations d'intérêt, on a pu voir qu'elle avait été rémunérée à hauteur de 10 000 euros par mois pendant 6 mois par un think tank américain, et du coup il y a des questions qui se posent sur justement sa loyauté vis-à-vis de l'Union européenne et des États membres, alors qu'elle a été rémunérée sur des revenus qui étaient supérieurs à ses revenus de parlementaire européenne à cette époque-là.
Donc voilà, donc ces intérêts-là, c'est quelque chose qui, au contraire, nous semble critique. Et là-dessus, on s'est pas mal battu et on a obtenu donc non seulement que ce soit rendu public, mais surtout que ce soit réutilisable. Parce que c'est souvent le truc quand on nous publie des données, c'est que ensuite il y a la CNIL qui dit mais attention, ça c'est des données nominatives, elles parlent de un tel. Donc du coup, c'est des données personnelles. Et donc du coup, non, vous n'avez pas le droit de les réutiliser. Donc là-dessus, on a aussi obtenu que les déclarations d'intérêts sont réutilisables et donc. Qui nous amènera peut-être par la suite à un autre truc, qui sont de comment est-ce qu'on réutilise ces données. Mais plus, je voulais donner un petit en conclusion par rapport au point qui précédait, sur l'idée que il n'y a pas besoin de gros changements à nos yeux, c'est plus des petits changements qui permettent de faire avancer les choses. Et un truc qui manque et qui est aujourd'hui en plus complètement d'actualité, parce qu'il y a eu pas mal de débats justement dans un des textes sur la PMA récemment là-dessus, c'est la transparence des votes. Ça paraît fou, mais le Parlement français est très avancé en plein de choses. Il y a, par rapport à plein de pays européens, il y a très peu de transparence. Enfin, il y a énormément de documents qui sont publiés sur ce que font les députés et ce que font les sénateurs. On a tous les amendements, on a tous les textes, on a des comptes rendus détaillés. Enfin, il y a
transcriptions des débats.
Ouais, les transcriptions détaillées des débats en commission et en hémicycle. Enfin, il y a même des vidéos maintenant pour beaucoup de débats. Mais par contre, contrairement à ce qui est la base dans tous les autres parlements où ils publient pas tous les textes, c'est les votes. Là-dessus, en France, 98% des votes, je dis un chiffre à la louche, mais c'est à peu près ça, se font à main levée. Et donc, à main levée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ben il y a le président de séance qui voit, et de toute façon, il sait. C'est le truc le plus déprimant quand on assiste à des débats, c'est que, en gros, il sait d'avance qu'il a la majorité, enfin que la majorité a la majorité, c'est pas forcément le président et pas forcément la majorité. Et du coup, en fait, à moins qu'il y ait eu clairement des gens de la majorité qui se sont exprimés contre l'avis du gouvernement sur un vote, il va dire qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Je mets aux voix l'amendement machin avec avis favorable du gouvernement. Qui est pour, qui est contre, il est adopté. Et c'est comme ça que ça se passe.
Et c'est le grand V en plus.
Mais c'est logique en même temps, parce qu'effectivement, logique. S'il n'y a pas d'opposition, bah oui, la majorité va voter avec la majorité. Ça semble logique. Mais du coup, tous ces votes-là, on ne sait pas ce qu'ils ont. Et nous, on reçoit régulièrement des mails, genre, je ne sais pas, on doit recevoir un par mois au moins de citoyens qui cherchent à savoir, mais sur tel vote, j'aimerais savoir qui a voté quoi. Et ben en fait, ben non, désolé, c'était à main levée. En fait, on peut pas savoir. Et
donc ça, c'est une évolution qui serait vraiment nécessaire, c'est ça. Selon toi.
Alors après, dans les points positifs, parce que sur cette question des votes, si on compare par exemple à ce qui se fait au Parlement européen, au moins au Parlement français, à l'Assemblée nationale, les votes sont faits au fur et à mesure des articles. Donc une fois qu'on a fait tous les amendements sur l'article, qu'on sait à peu près l'état du texte, on va voter pour cette. Enfin, les députés vont voter pour cet article-là. Au Parlement européen, ils ont une approche différente qui rend le suivi par des citoyens beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'ils vont d'abord voter tous les amendements et ensuite ils vont faire une avancée très rapide de voter tous les amendements, enfin tous les articles à suivre de façon très 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 rapide, sans aucune discussion, sans aucun contexte. Donc quand on vient, on voit juste des gens qui votent. Les députés en général, les eurodéputés en général, savent pas du tout ce qu'ils votent. Ils vont voter exactement comme leur dit la rapporteure, et on a déjà vu plusieurs cas où il y a une erreur de traduction entre la position, entre ce que dit la rapporteure et ce qui est donné dans les casques de traduction, et du coup toute la majorité qui vote l'opposé de ce que disait la rapporteure, ce qui fait des scènes assez ubuesques, parce que du coup la rapporteure se retrouve extrêmement surprise de ce qui a pu se passer en se retournant, et du coup une obligation de vote. Et en tant que citoyen, à regarder cette partie-là, c'est incompréhensible et pas du tout intéressant, alors qu'au moins il y a une certaine logique dans la façon dont ça se déroule dans le Parlement français.
D'accord. Alors on va avancer parce que le temps file, c'est passionnant et vous êtes évidemment passionné par vos sujets, mais le temps file. On va aborder un sujet suivant, la gouvernance, notamment la gouvernance ouverte. Alors, vous avez déjà parlé de vos outils en logiciel libre. Tu as parlé d'Open Data tout à l'heure, Benjamin, mais je voudrais que tu reviennes dessus. Et puis la transparence que vous demandez pour les autres, est-ce que vous l'appliquez pour vous-même? Alors qui veut réagir là-dessus? David Gaillot.
Alors effectivement, tout ce qu'on produit, c'est un logiciel libre. Mais le logiciel libre, sur ce qu'on fait, c'est pas forcément suffisant, parce que la grosse force de ce que représente nosdéputés.fr ou la fabrique de la loi, c'est en fait la base de données qui est derrière. Donc on a également publié notre base de données en open data, donc il y a des dumps assez réguliers qui sont proposés sur de la base de données pour être capable de la récupérer. En plus de ça, comme on fait un certain nombre de méthodes de calcul, pour nous c'est très important que ces choses-là puissent être auditables par n'importe qui, ou puissent être challengées, qu'il y ait d'autres applications qui l'utilisent, ou qu'il y ait une autre opinion différente de la nôtre qui puisse être mise. On essaye aussi d'appliquer les demandes de transparence chez nous, ce qui est d'ailleurs un exercice assez intéressant pour nous. C'est-à-dire que quand on demande les déclarations d'intérêt des parlementaires, on s'est forcé à faire cet exercice-là. Donc les déclarations d'intérêt de chacun des administrateurs de Regards Citoyens sont disponibles sur le site internet. On peut voir effectivement si telle ou telle personne pourrait défendre un intérêt qui serait autre que celui de l'association ou des valeurs qu'elle prétend défendre.
On peut voir par exemple que l'un des administrateurs de cette association a un conflit d'intérêt quand il vient à cette émission, parce qu'il était anciennement président de l'April. C'est dans la déclaration d'intérêt.
On parle donc effectivement Tanguy Morlier.
Et notamment de faire cet exercice, ça amène à réfléchir. Ça nous amène à réfléchir beaucoup sur jusqu'à combien de temps on remonte dans la déclaration d'intérêt. Est-ce que vraiment on a envie de dire que on a fait la manifestation
pour les plus jeunes, la manifestation de Vaquet en 2000, je sais pas.
Jusqu'à 5 ans.
Mais en tout cas, cette démarche est assez intéressante.
Que vous appliquez cette démarche à vous-même.
Faire ça. Tous nos comptes sont présents dans Git.
Pas nos comptes personnels, les comptes de l'association.
Excusez-moi. Mais les comptes de l'association sont présents dans Git. Alors, du coup, on fait aussi également attention à la vie privée. Donc, tous les dons personnels sont juste affichés sous forme d'initiales. Mais le détail des comptes est mis dans un repo Git pour permettre de faire ça. Et on a une autre particularité, c'est qu'on est une association collégiale. Donc, on n'a pas de président, on n'a pas de secrétaire. On a un collège administrateur et tous les administrateurs, du coup, le même rôle, les mêmes droits et les mêmes charges, c'est-à-dire récupérer la centaine de mails hebdomadaires et de pouvoir les lire et d'essayer d'y répondre dans le pad qui est collaboratif. Alors je me rappelle plus de l'adresse du pad parce que depuis qu'on l'a changé.
Je crois que c'est sur je sais plus s'il est sur. Alors,
je précise que le pad c'est un bloc-notes, c'est un site web sur lequel tout le monde peut écrire et donc sur lequel vous corrédigez vos réponses aux courriels que vous recevez, les demandes, etc., etc.
Tout à fait. Il n'y a pas un tweet envoyé par Regard Citoyen ou un mail en réponse à une demande qui soit adressée à Regard Citoyen qui n'ait pas été au moins relu par deux autres personnes.
Qui explique des fois le temps mis à
ce qui, crée un certain
mais quand
délai.
On le sait, on est au courant. Voilà. Voilà, c'est...
Et quand on sait, même on vient nous parler en chat, parce qu'en fait, c'est vrai que nos principaux outils de fonctionnement, c'est un chat IRC, donc un chat sur lequel on peut dialoguer.
Donc la messagerie instantanée, mais à l'ancienne, on va dire, qui marche. Quoi.
Enfin, sur les protocoles de l'Internet.
Voilà.
Ce pad, donc, et cet outil de rédaction de texte collaboratif où du coup on va dès qu'il y a un mail on va le lister dedans et puis si on est motivé on va tout de suite rédiger une réponse et puis d'autres vont itérer, la modifier et éventuellement à un moment l'envoyer.
Et dans le collectif actuellement il y a combien de personnes?
Alors, le CA est en ce moment un peu réduit au conseil d'administration. On n'est plus que 4 ou 5.
5, je crois.
5, ouais. Par contre, on a un ensemble de membres en plus qui contribuent de manière beaucoup plus ponctuelle et qui est de l'ordre de quelques dizaines, une quarantaine, quelque chose comme ça.
Oui. Alors, on a une notion de membre qui est assez large. Puisque dans nos statuts, la définition de membre, c'est de participer aux actions de Regard Citoyen.
On n'a pas de cotisation, vu qu'on on a un budget, comme tu sais, nos comptes étaient publics, mais en gros, on dépense et reçoit environ entre 2000 et 4000 euros par an.
D'accord.
Donc c'est un fonctionnement vraiment entièrement, encore une fois, bénévole. Les membres ne cotisent pas, juste ils participent.
Tous les membres peuvent se connecter sur le pad, peuvent venir relire les différents emails. C'est d'ailleurs une très bonne façon pour nous de créer. Ce pad et la façon dont on relie et dont on va se corriger les uns les autres, c'est une très bonne façon pour nous de se créer une doctrine commune, parce que du coup on se pose très régulièrement les questions de comment est-ce qu'on répond à ce genre de demande, ce qui fait que du coup on n'arrive à pas afficher trop de contradictions quand on intervient ensemble dans les médias. Et ça permet également aux nouveaux membres de pouvoir intervenir et juste de venir et de lire le mail, de faire un plus un. On a un membre qui a tendance à faire pas mal de fautes d'orthographe mais qui a souvent des bonnes idées, du coup on prend ses bonnes idées, on corrige juste les fautes d'orthographe, c'est une bonne façon de participer.
Et du coup, cette souplesse sur la définition de membre de Regard Citoyen nous a permis, pendant une brève période, de pouvoir considérer qu'il y avait, je ne sais plus si c'est 2000 ou 3000 membres à Regard Citoyen, parce que on a lancé plusieurs fois des opérations de crowdsourcing, ce truc qui
crowdsourcing, permet. Crowdsourcing, c'est quoi ça?
C'est le truc qui permet de solliciter les gens pour faire des petites tâches que en masse prendraient un temps fou à faire par une seule personne, mais quand on les distribue entre plein de gens, on peut aller beaucoup plus vite. Et on avait fait ça notamment pour les déclarations d'intérêt des députés, qui avaient été rempli à la main par les députés et scanné. Et donc du coup, on les avait divisés en plein de petits morceaux de texte scannés et soumises sur une plateforme où les gens pouvaient voir un bout de déclaration d'intérêt et devaient le recopier en version numérique. Et comme ça, on a rendu open data, on a transformé en données réutilisables les déclarations d'intérêt. Et pour faire ça, ça aurait été titanesque. Et d'ailleurs, la haute autorité de transparence qui était censée contrôler ces informations aurait jamais réussi à faire le boulot.
Pour la petite histoire, on les avait rencontrés avant parce que du coup, la disposition que ça devait être réutilisable et donc en open data tel qu'on l'entend, c'est nous qui avions fait l'amendement dedans et donc la haute autorité nous avait identifié à ce titre-là. Quand ils ont fait leur formulaire, ils ont fait des formulaires sur lesquels les gens pouvaient rendre sous forme manuscrite, ce qui a fait que quand ils se sont dit comment est-ce qu'on peut essayer de rendre un format réutilisable de ça, ils avaient fait l'estimation qu'il faudrait deux personnes à temps plein pendant 18 mois. Il nous avait invité à une réunion pour nous dire on ne va pas être capable de faire de l'open data et on pense que le contrôle c'est plus important que de faire du que de retranscrire tout ce qui est fait. Et du coup, on leur a dit vous inquiétez pas, on va le gérer pour vous. Et 10 jours après, c'était fait.
Mais en même temps, du coup, le contrôle, ils ne pouvaient pas le faire sans avoir les données parce qu'ils eux-mêmes n'étaient pas forcément capables de lire. Il y a des fois où il a fallu 10 internautes pour arriver à bien relire ce qui avait été écrit par tel député. Mais donc, du coup, ben, on a en 10 jours, je crois, 2000 ou 8000, je ne sais plus, personnes qui ont participé à ce crowdsourcing et qui, donc, du coup, de fait, ont participé aux activités d'engagement et donc, sont venus grossir nos membres.
Ce qui explique qu'un collectif qui, on pourrait penser qu'il n'y a pas grand monde, en fait, permet d'en faire des actions parce que finalement, vous utilisez la foule pour mener des actions individuellement petites, mais qui constituent un tout absolument efficace.
Tout à fait. On a fait ça 3 fois, une fois sur le lobbying, 7 fois sur les déclarations d'intérêt, et la plus récente en date, qui est sur l'IRFM, les frais de mandat des députés, où on a demandé en fait aux gens de participer au fait de demander à chaque député de nous communiquer les 6 derniers mois de leur compte en banque dédié aux frais de mandat.
Exactement. Alors, on va bientôt devoir conclure. J'ai envie de vous demander comment on peut aider ou participer à Regard Citoyen en quelques mots.
Bah, le plus simple, c'est de venir sur IRC ou de nous faire un mail et on leur pointe les outils. C'est peut-être la barrière à l'entrée qui est un peu compliquée, c'est que du coup il y a une barrière technique un peu à la participation et souvent on a des bonnes volontés et qui pour autant se sentent un peu désemparés par nos outils. Du coup, je sais pas quelle est. Enfin, c'est une des questions peut-être qu'on se pose un peu en ce moment, c'est comment nous ouvrir encore plus, permettre à plus de gens de participer facilement. Je n'ai pas de solution personnellement à donner.
Oui, c'est une question qu'on s'est souvent posée. On n'a toujours pas trouvé de très bonne solution pour ça. Mais déjà, juste de prendre le temps d'aller voir l'activité de son parlementaire, de voir ces choses-là, de s'intéresser à l'écriture de la loi, de voir effectivement comment ces choses-là, et de juste de pouvoir utiliser effectivement les outils qui sont mis à disposition, je pense que c'est déjà une très bonne façon de nous aider. Et puis, il y a quelques fois où on peut avoir des parlementaires qui vont nous faire quelques reproches publics et de pouvoir avoir du soutien dans ces moments-là. C'est des choses qui, à la fois, sont assez rassurantes dans l'engagement bénévole et également qui permettent de donner un petit peu de poids dans les différents plaidoyers qu'on peut avoir dans ces moments-là. Mais c'est pas forcément l'engagement bénévole. Mais sinon, oui. Venir lire sur le pad, relire les mails, corriger les fautes d'orthographe, c'est déjà...
Mais bon, pour tout ça, le plus simple, c'est de prendre un des points d'entrée qui sont notre mail, contact@regardcitoyen, regard au pluriel, citoyen au pluriel, tout attaché.org, ou de venir sur notre chat IRC qui est /regardcitoyen sur Freenode pour les gens qui connaissent encore IRC.
Alors, je suppose qu'il y a un lien depuis votre site qui permet d'y accéder.
Oui. Sinon,
voilà. Donc je vais rappeler les sites importants. Donc, comme tu viens de le dire, regardcitoyen au pluriel.org, nosdéputés.fr, nossénateurs.fr, lafabriquedelaloi.fr, et je suppose qu'il y a encore d'autres sites. Et en tout cas, merci parce que Regard Citoyen est un collectif d'utilité publique et qui est souvent décrié effectivement et totalement à tort. Donc j'étais ravi de vous avoir et je pense qu'on refera sans doute une seconde émission parce que la liste des sujets qu'on souhaitait aborder n'est pas terminée, mais bon, comme vous êtes passionné, c'est normal. Donc voilà, nos invités étaient donc Benjamin Octabanou et David Gaillou. Et bien, écoutez, je vous souhaite de passer une agréable fin de journée et à bientôt.
Merci.
Merci.
Et donc, c'était un sujet avec Regard Citoyen enregistré il y a quelques jours. Avant la pause musicale, on va répondre aux questions du quiz. La deuxième question, justement, c'était deux sites du collectif Regard Citoyen qui cherchent à mettre en valeur l'activité des parlementaires. Et bien, comme l'ont expliqué David Gaillou et Benjamin Octabanou, ces sites sont nosdéputés.fr et nossénateurs.fr. Et l'autre question, c'était lors de l'émission du 8 octobre 2019, nous avons parlé d'un groupe de musique de Stoner et qui publie ses titres sous licence libre. Je vous demandais quel était le nom de ce groupe. Et bien le groupe, c'est Stone From The Sky. Et leur site web, c'est stonefromthesky.fr. On va passer à une pause musicale. Nous allons écouter El Refé par Sam Blas Posse. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune.
Cause commune.
93.1.
Si
Nous venons d'écouter El Refé par San Blas Posse, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la chronique de Xavier Berne, journaliste à Next Impact, qui va nous parler des 3 ans de la loi pour une république numérique. Alors Xavier, est-ce que tu es avec nous au téléphone ?
Je suis bien là. Oui, bonjour.
Alors bonjour Xavier. Donc la loi pour une république numérique, également connue sous le nom de loi numérique ou loi Le Maire, du nom de la secrétaire d'État qui a porté ce texte devant le Parlement, donc Axelle Le Maire, a fêté ses 3 ans il y a quelques jours. Alors Xavier, quel bilan peut-on tirer de cette loi 3 ans après son entrée en vigueur ?
Alors 3 ans plus tard, j'ai envie de dire qu'on a l'impression d'être face à un texte qui a assez mal vieilli. Par exemple, sur les données personnelles, la plupart des dispositions relatives à la protection des données personnelles ont été rendues en quelque sorte caduques suite à l'entrée en vigueur l'année dernière du RGPD, le fameux règlement européen relatif à la protection des données personnelles. Pour vous donner un exemple un peu plus concret, la fameuse loi numérique étendait le pouvoir de fonction de la CNIL, le gendarme des données personnelles, qui a ainsi été autorisé à infliger des amendes pouvant atteindre 3 millions d'euros. Et à l'époque, c'était vraiment un sacré changement, étant donné que le plafond en vigueur était de 150 000 euros. C'était vraiment rien du tout pour les géants du net comme Google ou Facebook. Sauf qu'on est passé de 150 000 à 3 millions d'euros, et avec le RGPD, maintenant la CNIL peut aller jusqu'à 20 millions d'euros, ou même pour les entreprises, 4% de leur chiffre d'affaires annuel mondial. On n'est plus du tout sur le même braquet. Deuxième chose, en 3 ans, il y a eu aussi beaucoup de détricotage. En clair, c'est que le législateur est venu réécrire en fait certains des dispositifs qui venaient d'être votés. Alors on a vu ça par exemple au sujet de la mise en ligne en open data des décisions de justice, on a vu ça sur le droit à la récupération de ces données qui a sauté avant même d'entrer en vigueur, ou bien aussi sur le sujet des règles d'accessibilité des sites publics aux personnes handicapées, où je pourrais aussi vous parler des dérogations à la transparence des algorithmes de Parcoursup, notamment on en a déjà parlé dans le cadre d'une précédente chronique. Donc pour résumer, on a des mesures qui sont périmées, on a des mesures qui sont détricotées, et puis on a aussi, troisième problème, des mesures qui restent inapplicables à faute de décret d'application. C'est-à-dire qu'en 3 ans, le gouvernement n'a toujours pas pris les textes relatifs, par exemple, à la mise en ligne des décisions de justice, où il manque aussi un décret pour les dispositions sur ce qu'on avait appelé à l'époque la mort numérique, c'est-à-dire en fait qu'est-ce qu'il est prévu en cas de décès par rapport à nos données, notamment celles qu'on laisse sur les réseaux sociaux. Alors j'ai pas tout énuméré ici, mais au total on entend quand même encore entre 5 et 10 décrets ou arrêtés. Et enfin, le dernier problème, c'est que beaucoup de mesures ont beau être à la fois en vigueur, avoir leur décret d'application, elles ne produisent pas toujours les effets escomptés. On avait déjà parlé aussi, donc là sur la question de la transparence des algorithmes publics, comme je disais tout à l'heure. Clairement, c'est pas parce que la loi introduit certaines obligations, notamment en destination des administrations, que celles-ci sont forcément respectées. Je pourrais aussi vous donner un autre exemple qui est celui en fait du droit au maintien de la connexion Internet, qui avait été introduit là sur le même modèle que ce qui est prévu pour l'eau et l'électricité afin d'aider les foyers en difficulté financière. Et sur ce dossier, malheureusement, on voit bien qu'on en est resté au stade des expérimentations. Et on a le même problème sur une autre mesure qui était sur le dites-le-nous une fois, un programme qui devait éviter aux citoyens en fait de fournir à l'administration plusieurs fois les mêmes justificatifs. Alors là, on a les dispositions législatives, mais la mise en œuvre prend beaucoup de temps à être mise en œuvre sur le terrain.
D'accord. Avant de te poser une question sur ça, ce qu'il y a et ce qui reste dans cette loi, ce qui est intéressant, c'est que quand tu parles de décret d'application, tu expliques peut-être que les gens qui écoutent ne le savent pas. C'est pas parce qu'une loi a été votée, donc en l'occurrence la loi numérique, il y a 3 ans, qu'elle est applicable immédiatement, que tous ces articles sont applicables, parce que certains articles demandent ce qu'on appelle les décrets d'application, qui peuvent être pris notamment par le gouvernement pour entrer en pleine action. Et donc, comme tu l'expliques, il manque un certain nombre de décrets pour que cette loi entre complètement en vigueur. Donc ça, c'est important de le savoir, c'est pas parce qu'une loi est votée que tout entre en vigueur immédiatement. Et comme tu l'as dit tout à l'heure...
Il y a une autre chose qui est importante à préciser, c'est que aussi, c'est pas parce que la loi est promulguée que les mesures qui sont dedans entrent forcément en vigueur. La loi peut très bien dire tel article entre en vigueur telle année. Et c'était notamment le cas justement pour la loi numérique où il y a quand même pas mal de mesures qui sont entrées en vigueur uniquement l'année dernière.
Tout à fait. Et j'invite les personnes qui écoutent l'émission à retrouver les podcasts, notamment de ta chronique, donc sur april.org ou causecommune.fm, parce que tu as déjà eu l'occasion d'aborder un certain nombre de ces points-là. Alors là, tu as expliqué un petit peu les détricotages, les mesures qui n'ont pas produit les effets escomptés, les décrets qui manquent à l'appel. Donc, qu'est-ce qui reste, en fait, dans la loi numérique ?
J'avoue que je me suis quand même bien posé la question en préparant cette chronique, et c'est difficile de voir des choses vraiment très impactantes d'une certaine manière et qui restent aujourd'hui dans le droit. Il faudrait quand même citer quelques exemples. Il y a eu un toilettage en fait du code pénal pour lutter ce qu'on appelle contre le revenge porn. En fait, il y avait des lacunes dans le droit afin de sanctionner plus facilement en fait ces internautes qui jettent en pâture sur Internet des images intimes de leurs ex-partenaires. Je pense que là-dessus, ça a quand même produit des effets, ça a été assez intéressant. Il y a eu des choses sur la reconnaissance des compétitions de sport électronique, le e-sport. Si on peut dire que ce qui reste, c'est quand même le volet sur l'open data, d'une manière générale. Donc l'open data, c'est ce qu'on a, l'ouverture des données publiques. Il y a énormément de dispositions, alors c'est assez varié, il y a beaucoup de choses, mais globalement, l'idée, c'était d'obliger les administrations à mettre en ligne sur leur site internet différents documents qu'on dit administratifs et qui sont donc susceptibles d'intéresser les citoyens au sens large. Donc ça peut être des statistiques, des documents sur le fonctionnement budgétaire des collectivités territoriales, ça peut être vraiment plein de choses, des codes sources, des rapports, etc. Voilà, je pense que c'est ce qui risque de rester de cette loi numérique, de cette loi Le Maire. Quand bien même, pour l'heure, les effets ne sont pas forcément au rendez-vous, puisque, voilà, comme on disait un petit peu tout à l'heure, il y a des mesures qui ne sont entrées en vigueur que l'année dernière, au bout de 2 ans après la promulgation du texte, et parce qu'aussi, ce sont des choses qui sont difficiles à mettre en œuvre, je pense, pour les administrations, pour diverses raisons. Donc voilà.
D'accord. Alors j'en profite pour signaler que sur la partie Open Data, j'invite les personnes qui nous écoutent à réécouter le podcast de l'émission du 2 octobre 2018 où tu intervenais avec également Tanguy Morlier de Regard Citoyen qui a été évoqué juste avant et Laurence Compara de la ville de Grenoble. Alors, autre question, est-ce une fatalité, donc quelque chose qui arrive finalement à tous les textes de loi, ou est-ce que c'est quelque chose qui a été sciemment organisé pour ce projet de loi ?
Alors en matière numérique, les choses évoluent très vite. Le législateur est presque toujours à la traîne, donc c'était pas vraiment une grosse surprise en fait. D'autant que le RGPD, on savait qu'il allait arriver, etc. Beaucoup de mesures, notamment celles que j'ai prises en illustration sur le pouvoir de sanction de la CNIL, étaient en fait des mesures transitoires. Voilà, on peut dire que globalement, cette forme de vieillissement accéléré, si on peut l'appeler comme ça, est surtout liée en fait au foisonnement de textes en provenance de l'Union européenne, parce qu'il y a aussi pas mal de directives, des règlements. Donc j'ai parlé du RGPD, mais c'est pas le seul. Il y en a eu aussi sur le domaine des transports qui ont impacté d'autres mesures de la loi numérique. Mais ça n'empêche pas que sur certains sujets spécifiques, on peut quand même vraiment dire qu'il y a eu des reculs sous l'impulsion de la nouvelle majorité macroniste. Et l'exemple type, c'était sur les dérogations à la transparence dans le cadre de Parcoursup. Et la dernière chose aussi qu'on peut dire, c'est que comme dans quasiment chaque texte de loi, il y a toujours des mesures qui relèvent vraiment de l'affichage. Voilà, c'est du blabla législatif qui est là pour faire plaisir à certaines personnes ou certaines communautés. Enfin voilà, ça dépend des textes. Et voilà, je pense qu'ici, pour le projet de loi numérique, une bonne illustration, c'était sur le fait que les administrations devaient encourager l'utilisation des logiciels libres et des formats ouverts, qui avait suscité beaucoup de débats à l'époque. On était resté finalement un petit peu au milieu du guet en prévoyant un simple encouragement, et on voit aujourd'hui que c'est très dur de voir s'il y a vraiment eu un encouragement ou pas, parce que de toute manière, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, sur le plan législatif en tout cas, de devoir encourager l'utilisation de logiciels libres ou de formats ouverts.
Alors c'est un excellent exemple, parce que nous à l'époque on s'est mobilisé pour qu'il y ait une priorité au logiciel libre dans le service public, qui est beaucoup plus normatif, et effectivement comme tu l'as dit, ce qui est resté c'est un encouragement qui n'est absolument pas normatif, et qui visait plus à nous faire plaisir ou à faire plaisir aux communautés libristes, alors ce qu'en fait que les politiques n'ont pas compris, c'est qu'on ne cherche pas à avoir du plaisir, on cherche à avoir des choses qui sont efficaces, et donc priorité au logiciel libre via les marchés publics, avec un vrai sens normatif. Dernière question, c'est la loi Le Maire de l'ancienne secrétaire d'État Axelle Le Maire. Aujourd'hui, on a un nouveau secrétaire d'État au numérique, donc Cédric O. Est-ce que donc on doit s'attendre à une nouvelle loi numérique ?
Alors clairement, c'est pas au programme aujourd'hui, en tout cas dans la mesure où la fameuse loi Le Maire était très vaste, elle traitait de très nombreux sujets en lien avec le numérique. Là, la nouvelle majorité avance dans le sens inverse d'une certaine manière, puisqu'elle légifère de manière sectorielle. en traitant du numérique en fonction des sujets. Là, on a eu la proposition de loi, par exemple, sur les contenus haineux sur Internet qui va bientôt être discuté au Sénat. Il y a eu du numérique dans le récent projet de loi sur la santé, sur celui sur les mobilités. Là, on en reparle avec le projet de loi sur l'économie circulaire ou même en ce moment dans le cadre du projet de loi de finances. Mais il n'y aura pas, à mon avis, de grosses lois sur le numérique. En tout cas, pour l'instant, il n'y a rien qui a été annoncé. Il n'y a rien qui se profile pour les prochains mois. Et il y a quand même aussi un signe qui trompe guère, c'est que normalement, 3 ans après la promulgation d'un texte de loi, l'Assemblée nationale doit installer une mission d'évaluation du texte qui vient de fêter ses 3 ans. Or, d'après mes informations, à l'Assemblée, il n'y a pas eu pour l'heure de député qui s'est manifesté pour procéder à une évaluation de la loi Le Maire. La semaine dernière, j'ai essayé de contacter différents parlementaires pourtant habitués des dossiers numériques et aucun ne m'a répondu. Donc voilà, je pense que ça montre qu'il y a peu d'entrain pour se pencher sur ce texte qui en plus a été voté sous une autre majorité. Toujours d'après mes informations, Paula Forteza, la députée de La République En Marche, s'intéresserait malgré tout au dossier, mais j'ai vu hier qu'elle venait de se voir attribuer une autre mission sur l'identité numérique. Donc je pense qu'on n'est pas prêt de voir une mission d'évaluation de la loi Le Maire, qui serait pourtant, à mon avis, bien utile au regard de ce petit bilan que je viens de vous dresser au pied levé.
D'accord. Écoute, merci Xavier, puis on verra s'il y a une nouvelle loi qui arrive, et je te souhaite une bonne journée, puis on se retrouve le mois prochain pour ta prochaine chronique.
Ça marche. Merci. Au revoir.
Au revoir. Nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Nous sommes le 15 octobre 2019. Eh bien, les collectivités, justement, qui souhaiteraient mettre en valeur leurs actions logiciels libres et données publiques peuvent candidater jusqu'à ce mardi soir à minuit pour le label Territoire numérique libre, organisé par l'ADULACT, l'association des développeurs et utilisateurs de logiciels libres dans l'administration des collectivités territoriales, après les partenaires de ce territoire numérique libre, donc le label. Donc, c'est territoire-numérique-libre.org, donc jusqu'à minuit ce 15 octobre. L'appel à conférence pour l'Ubuntu Party qui a lieu les 16 et 17 novembre 2019 se poursuit. Donc vous allez sur ubuntu-paris.org et vous pouvez proposer une conférence. Alors c'est notamment l'occasion de saluer Olive et Charlotte qui co-animent l'émission Dissonance sur Cause Commune chaque lundi de 12h à 13h30. Émission qui parle de musique, d'histoire, de science, de l'actualité en Île-de-France et de politique. Alors dans les autres annonces, il y a pas mal d'apéros cette semaine. Il y a l'apéro parisien du Libre ce soir dans le 14e. Alors c'est évidemment annoncé sur l'agenda du Libre, agendadulibre.org. Il y a un apéro à prix le 17 octobre à Montpellier. Il y a un apéro à prix le 18 octobre à Paris dans nos locaux. Et jeudi soir 17 octobre, il y a la soirée de contribution libre, donc à la FPH dans le 11e, et il y a la réunion du groupe de travail sensibilisation, dont tout à l'heure ma collègue Isabella Vanni vous a compté un certain nombre de projets et vous a invité à participer, donc n'hésitez pas à venir à cette réunion. Tous les autres événements sont bien sûr annoncés sur l'agenda du libre, donc agendadulibre.org. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Isabella Vanni, David Gaillou, Benjamin Hogg, Tabanou, Xavier Berne. Aux manettes de la régie, aujourd'hui, Étienne Gonu. Vous retrouverez sur notre site web april.org et sur le site de la radio causecommune.fm toutes les références utiles. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues. Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel à l'adresse libreavou@april.org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous. La prochaine émission aura lieu mardi 22 octobre 2019 à 15h30. Notre sujet principal portera sur les espaces publics numériques libres. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 22 octobre 2019. Et d'ici là, portez-vous bien.